Chapitre 2. Je reprends mon récit, chère maman, où j'ai été obligée de l'interrompre hier. Tu sais que je devais aller avec ma tante à la messe. Le soir, j'avais eu la précaution de demander à Adélaïde à quelle heure je devais être prête. 7h30. J'arrivais dans le vestibule au moment même où s'arrêtait devant le perron une petite voiture basse traînée par une mule. Je sortis sur le perron pour examiner la mule, qui est très jolie, haute sur jambes, élancée, légère, avec une tête intelligente et un œil doux. Mais ce qui est tout à fait charmant, c'est son harnais orné d'aigrettes et de huppes rouges entremêlées de rubans sur lesquels sont cousus des grelots. Comme j'étais en train de l'admirer, survient Buva en redingote, ce qui me fit comprendre qu'il devait nous accompagner. Quoiqu'il fît la même chaleur que la veille, il portait sous son bras un manteau chaud pour ma tante. « On l'appelle la Gloriette, » me dit-il. À ce moment, arriva ma tante, portant des croûtes de pain dans une petite corbeille en osier. La Gloriette fut débridée et ma tante lui fit manger ses croûtes en tenant elle-même la corbeille d'une main, tandis que, de l'autre, elle flattait la mule qui la regardait de ses yeux doux et reconnaissants. Ma tante me fit monter à côté d'elle, et quand Buva eut grimpé sur le siège de derrière, elle prit les rênes, et nous partîmes, au bruit joyeux des grelots de la Gloriette, qui encensait entre-temps. La veille, en me promenant dans le jardin, j'avais tenu plus souvent mes yeux levés en l'air que sur le sable du chemin que je suivais, et ce que j'avais vu de la ville nichée au haut de la colline avait excité ma curiosité et ne l'avait pas du tout satisfaite. Que cachaient ces murailles sombres et ces toits qui montaient en s'étageant jusqu'au clocher de l'église? À mon nez en l'air et à la direction de mes regards, ma tante devina ma curiosité. « Je vois avec plaisir qu'il t'intéresse le berceau de ta famille. Tu vas le trouver tout à l'heure au milieu de la ville la plus curieuse de France, une ville du XIIIe siècle restée, grâce à Dieu, telle ou à peu près qu'elle est sortie des mains de Raymond VII, le bienfaiteur de notre maison, car j'espère qu'on t'a dit que tu descends de Guillaume de Puylaurens, qui fut ambassadeur du dernier des comtes de Toulouse, auprès du Saint-Père. » « Oui, ma tante. Tu vas voir les ruines du château que Raymond VII s'était fait construire, et tu vas voir aussi, debout et intacte, Dieu merci, pour attester la gloire de notre famille, la maison que notre ancêtre Guillaume de Puylaurens s'est fait construire à côté de celle du grand veneur, du grand fauconnier et du grand écuyer, debout aussi, mais en moins bon état que la nôtre, les descendants de leur constructeur n'existant plus depuis longtemps pour les entretenir comme nous avons entretenu la nôtre. Il y a encore des Puylaurens, il n'y a plus des Sicards d'Alamans. Pour que tu sentes bien ces paroles, il faudrait que je puisse te rendre l'animation, la fierté, la gloire avec lesquelles ma tante les prononce. » Pendant qu'elle m'expliquait corde, la Gloriette montait la côte gaillardement en faisant sonner ses grelots, et à mesure que nous nous élevions sur les pentes raides de la colline, la vue s'étendait plus librement sur la vallée que j'avais suivie la veille. Le jardin de Madame Faré m'a gâté sur les belles vues, mais celle-ci est vraiment merveilleuse. J'ai appris là ce que c'est qu'un ciel bleu. Au bout de la route se dressent deux tours rondes entre lesquelles s'ouvre une porte sous une voûte sombre. C'est une des entrées de corde et je t'assure qu'elle est presque effrayante. À peine la Gloriette s'était-elle engagée sous cette porte que j'eus la sensation d'une douche d'eau glacée qui me serait tombée sur les épaules, tant est brusque la transition de la chaleur du dehors avec le froid humide de ses noires murailles. À ce moment même, Buva enveloppa ma tante du manteau qu'il avait préparé. « Vous auriez dû en prendre un pour Mademoiselle de Mussidan, » dit-elle. « Il faudra ne pas l'oublier demain. » Le premier coup de cloche de la messe venait de sonner dans le clocher. Du bout de son fouet, ma tante toucha la Gloriette qui allongea son trot et nous fit entrer dans les rues étroites et tortueuses, pavées de larges dalles sur lesquelles notre voiture passait avec des roulements graves, comme si dessous il y avait des caves et des souterrains. Des femmes qui filaient leurs quenouilles assises sur les marches de leur maison se levaient pour saluer ma tante qui leur répondait d'un signe de tête. Je ne sais pas si on avait attendu ma tante, mais aussitôt qu'elle fut à sa place, la messe commença. Je n'avais pas de livre, n'ayant pas pensé à en demander un à Adélaïde. Ma tante s'en aperçut tout de suite. Elle fit un signe à un sacristain qui s'empressa de m'en apporter un. « Troisième dimanche après la Pentecôte, » me dit ma tante à mi-voix. Je fus attentive et j'eus la chance de m'agenouiller et de me relever aux endroits qu'il fallait, ni trop tôt ni trop tard. Ma seule distraction fut de me demander ce que nous ferions après la messe, si nous redescendrions au château ou bien si nous irions à la maison de Guillaume de Puylaurens. En sortant de l'église, ma tante me prit le bras. « C'est mon habitude, dit-elle, d'aller tous les jours après la messe passer une heure dans la maison de Guillaume de Puylaurens. C'est là que je reçois les gens qui ont affaire à moi, mes fermiers, mes pauvres. C'est une ville curieuse que Corde, mais ce n'est pas une grande ville, toute petite au contraire, et les rues n'y sont ni longues ni larges. Cependant, malgré leur étroitesse, on y a si grande peur du soleil que là où les carreaux des boutiques ne sont pas garnis de rideaux verts, les portes et les fenêtres sont presque complètement fermées, ne laissant passer qu'une raie de lumière dans laquelle dansent des essaims de mouches. Tu verras tout à l'heure que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a peur du soleil à Corde et qu'on prend des précautions pour s'en défendre. En sortant de l'église, j'avais vu une maison ancienne avec des arcades en ogive et une façade décorée de sculptures et j'avais cru que c'était celle de Guillaume de Puylaurens. Mais la tante me dit que c'était celle du grand veneur. Ce fut dans une autre rue, et un peu avant d'arriver à l'ancien château de Raymond VII, maintenant transformé en promenade, qu'à un tremblement du bras de ma tante, je compris que je devais être attentive. La pensée de me montrer la maison de l'ancêtre dont elle était si fière la rendait tout émue. Je ne me trompais pas. Cette maison gothique, à deux étages en pierre de taille, « C'est celle de Guillaume de Puylaurens, » me dit ma tante. « Je ne lui ai fait subir que des travaux de consolidation et d'entretien. Tout est authentique. Ses rosaces, ses colonnettes, ses quatre arcades ogivales du rez-de-chaussée, ses deux grandes fenêtres géminées du premier étage, l'attique avec ses fenêtres en cintre trilobées, ses bas-reliefs représentant des châsses avec des figures d'hommes et des animaux grotesques, tout cela est du temps. » « Quand tu seras grande et que tu voyageras, tu ne trouveras pas une maison pareille à celle-là. »« J'aurais voulu te décrire la maison, mais c'est impossible. Je n'ai retenu que cela du discours de ma tante parce que je me suis appliquée pour le retenir et te le répéter. Mais je ne sais pas si je ne m'embrouille pas dans les mots savants avec lesquels elle joue et si les fenêtres sont bien vraiment en cintre trilobé. » Il y avait aussi des archivoltes qui faisaient très bien dans sa description, seulement je ne sais pas où les placer. Tout ce que je peux te dire, c'est que la maison est aussi curieuse que la ville. Ma tante fut touchée de mon attention et de mon admiration. « Allons, tu es bien une Puylaurens, » dit-elle. Mais ce qui acheva de la gagner, ce fut une question que je lui adressai. J'avais remarqué sur la façade et au-dessus de la frise des anneaux de fer maintenus par une tige recourbée qui me paraissaient des instruments diaboliques car dans cette vieille ville fantastique, il y a un tas de choses qui ne sont pas rassurantes. « C'est des anneaux, cela, ma tante. À quoi cela servait-il »« Ah, tu sais regarder, toi. Il y a bien des gens, bien des savants, qui viennent tous les jours admirer notre maison. » Et il y en a plus d'un qui s'en retourne sans s'être seulement demandé à quoi servaient ces anneaux. Eh bien, ils étaient destinés à recevoir des cordes et des perches pour soutenir, en temps ordinaire, des bannes servant d'abri contre le soleil et, dans les jours de grandes cérémonies, à suspendre des tapisseries. Si la maison était un objet de curiosité pour moi, j'étais pour la ville un sujet de bavardage. On nous regardait, ou plutôt, on me regardait, car on la connaît bien, ma tante. Pour elle, elle ne paraissait pas s'inquiéter de ces regards qui m'ennuyaient un peu, et elle continuait. Il ne faut pas que tu t'imagines, mon enfant, que cette maison est restée dans notre famille depuis sa construction. Elle en est sortie pendant longtemps, et ça a été seulement quand j'ai pu disposer de ma fortune que je l'ai rachetée. Les artisans qui l'avaient occupé pendant de longues suites d'années l'avaient aménagé pour les besoins de leur métier. Je n'ai eu qu'à faire disparaître leurs embellissements pour la remettre dans l'état où elle se trouvait du temps de Guillaume. Cela n'était rien. La grosse affaire, c'était de la meubler. Mon ambition, tout d'abord, avait été de n'y admettre que des meubles du XIIIe siècle provenant d'ouvriers albigeois. Mais j'ai dû transiger, ils sont rares les meubles du XIIIe siècle, et leur origine n'est pas toujours facile à déterminer. Entrons, tu vas voir si le mobilier est en désaccord avec la maison. Mais ma tante, je ne le connais pas, moi, le XIIIe siècle. Cela, justement, va te le faire connaître. La porte nous fut ouverte par un grand gaillard solide et imposant comme un Suisse d'église. « Si on avait envie de me voler un jour, me dit ma tante en me montrant son gardien, tu vois que les voleurs trouveraient à qui parler. Parpaillot a des poings vigoureux. » Le géant se mit à sourire en se balançant, très fier de ce compliment. Mais je n'eus pas le temps de l'examiner. Dans la pièce d'entrée, qui est une sorte de vestibule, de parloir, je ne sais comment l'appeler, n'ayant pour tout mobilier que des bancs noirs adossés aux murs et des lances, des épées, des casques accrochés çà et là, se trouvaient 5 ou 6 personnes qui, à notre entrée, s'étaient levées pour saluer ma tante. Au costume et au visage bruni par le soleil, il était facile de voir que c'étaient des gens de la campagne. Cependant, il y avait parmi eux une sorte de personnage au teint pâle, bien cravaté, ganté de gants de peau noire et vêtu d'une redingote. Il vint au-devant de ma tante. Mais avant qu'il eût ouvert la bouche, elle l'arrêta. « Vous êtes le premier, monsieur ?»« Non, mademoiselle, mais... »« Veuillez attendre votre tour. » Et, ouvrant une porte, elle me fit passer devant elle, après avoir dit à Parpaillot d'introduire la première personne arrivée. « Assieds-toi, promène-toi, me dit-elle, fais ce que tu veux. Quand j'aurai reçu les personnes qui m'attendent, je serai à toi. » Mes yeux, éblouis par la clarté du dehors, furent un moment à s'habituer à l'obscurité qu'il fait dans cette vaste pièce, le jour n'y pénétrant que par des fenêtres garnies de vitraux de couleur, représentant des personnes vêtues de robes rouges, jaunes, vertes, bleues, aux nuances éclatantes, et comme avec cela le plafond est formé de boiseries et de poutres noires, comme les murs sont tendus du haut en bas de tapisseries décolorées, tu dois comprendre qu'il faut un certain temps avant de savoir où l'on est et ceux qui vous entourent. Ce qui attira mes yeux tout d'abord, ce fut un feu clair dans une immense cheminée en pierre, toute couverte de sculptures et sous le manteau de laquelle on peut se tenir debout. Ce feu brûlait sur de grands chenets en fer brillant, se terminant à leur partie supérieure en forme de corbeille. De chaque côté de l'âtre, il y a des bancs pour s'asseoir dans la cheminée même. Du feu en cette saison et par cette température, cela peint ma tante, n'est-ce pas? En entrant, elle s'était assise devant une table de bois noircie par les années, dans une chaise de même bois et de forme étrange, à bras sans manchons dans un dos plein, que surmontait une sorte de dais entouré de sculptures. Mais ce qui se disait entre elle et la femme que Parpaillot venait d'introduire te la fera trop bien connaître pour que je ne te la répète pas. C'était une femme toute jeune qui portait un enfant au maillot dans ses bras et en tenait un autre par la main. À sa jupe poussiéreuse, à ses souliers blanchis, on devinait qu'elle avait beaucoup marché et qu'elle venait de loin. « Que puis-je pour vous, ma fille ?» demanda ma tante d'une voix encourageante en l'examinant. La femme hésita et il fallut que ma tante insistât pour la décider. « Vous venez de loin ?»« De Castanet, 3 lieues d'ici. C'est mon homme qui a voulu que je vienne, parce que je vais vous dire que j'ai ces 2 enfants que voici et que je vais en avoir 1/3. Alors mon homme est fâché et, comme ça, il voudrait que vous soyez la marraine. » « Comment se nomme-t-il, votre homme ?»«
Péchaudier. » »«
Je ne le connais pas et je ne vous connais pas non plus. » »« Oh, mais nous vous connaissons bien, nous. Nous savons que vous avez été marraine à Saint-Servin, à la Bastide, à Virac. Alors nous avons pensé à vous et monsieur le curé a dit que vous ne nous refuseriez pas. » Ma tante se mit à rire. « Du moment que monsieur le curé l'a dit, pourtant je ne serai pas la marraine de votre enfant. » « Ah, mademoiselle, la voilà, votre marraine. » et elle me montra de la main. Mais la femme parut peu disposée à accepter ce changement. « Nous avions espéré que ce serait vous, » dit-elle. « Ma nièce sait mieux que moi, » dit ma tante, « puisqu'elle n'a que 15 ans et qu'elle pourra s'occuper longtemps de votre enfant. » Puis, ayant ouvert un tiroir, ma tante en tira une petite feuille de carton sur laquelle elle écrivit quelques mots. « Allez avec cela dans la grande rue, » dit-elle, « chez les sœurs Gérard. On vous donnera ce qui vous est nécessaire pour préparer votre layette. Pour le reste, j'écrirai à votre curé. » Après la femme qui venait demander une marraine, ce fut un fermier qui venait demander du temps pour s'acquitter. Sa femme était malade, un de ses chevaux qu'il comptait vendre était mort. « Mais la dernière fois que tu m'as demandé du temps, » interrompit ma tante, « c'était ton dernier enfant qui était malade et ta vache qui était morte. » Le fermier courba un peu plus son dos et parut ne pas comprendre. Avec la manche de sa veste, il polit consciencieusement le bras de la chaise en bois sur laquelle il était assis. Ma tante n'insista pas. Puis ce fut une vieille femme qui avait besoin de secours pour son fils qui était soldat et malade à l'hôpital. Puis vint une autre femme qui avait besoin d'un secours pour elle. Et de nouveau, ma tante ouvrit son tiroir et écrivit quelques mots sur une de ses petites feuilles de carton. Pendant ce temps, je tournais autour de la pièce, regardant curieusement les divers meubles qui la garnissaient, mais sans trop comprendre à quels usages ils avaient pu servir. L'entrée du monsieur à la redingote vint me distraire de mon examen. Que voulait-il demander, celui-là? Il ne demandait pas. Il offrait d'acheter une propriété que ma tante possède à Mazamé. Mais il n'eut pas de chance. Autant ma tante avait été douce et bienveillante avec les gens qui étaient venus lui prendre quelque chose, autant elle fut raide et hautaine avec lui. « Vous êtes notaire, monsieur ?»« Non, mademoiselle, agent d'affaires à Castres. » Il allait dire son nom, ma tante lui coupa la parole. « J'aurais dû m'en douter. Si vous aviez été notaire, vous auriez su qu'une puits Laurence n'aliène pas une part de l'héritage que lui ont transmis ses parents. » « Mais, mademoiselle, l'affaire est très avantageuse pour vous. »« Nous ne faisons pas d'affaires. » Un nouveau venu lui permit de sortir sans trop d'embarras. Aussitôt, ma tante m'appela. « Viens que je te présente au docteur Azéma, ma mignonne. » Et tout de suite, elle demanda au médecin, qui a l'air d'un brave homme, gai et bienveillant, comment il me trouvait. « Mais charmante, » dit le médecin. « Ce n'est pas cela que je vous demande. » « Est-elle solide ?» Le médecin, après m'avoir examiné, déclara que lorsque j'aurai vécu quelques mois à la campagne, je serai robuste comme une paysanne, et tout de suite, il gronda ma tante d'avoir été à la messe, mais elle lui répondit qu'elle le consultait sur tout, excepté pour ce qui regardait sa conscience, et lui coupant la parole, elle lui remit une liste de malades qu'elle le priait de visiter. Tout en parlant, ma tante signait plusieurs de ces petits cartons que je lui avais vus déjà donner. Elle en remit une dizaine au médecin. « Voici des bons en blanc pour vos malades, » dit-elle, « vous les remplirez. » Alors le médecin vint à moi. C'est ainsi que chaque matin, dans la maison de son aïeul, votre tante commence sa journée, me dit-il, celle d'une sainte. Mais ma tante n'aime pas qu'on la loue, elle coupa la parole au docteur Azéma. Et le soir, elle la termine en dînant avec son médecin, dit-elle. À 7 heures, n'est-ce pas? Quand le médecin fut parti, Parpaillot vint annoncer qu'il n'y avait plus personne. Alors ma tante ferma à clé le tiroir de sa table et se leva. Maintenant, je suis à toi, dit-elle. Qu'est-ce que tu as vu? Tout est rien, car je ne me doute même pas à quel usage peuvent servir la plupart de ces belles choses. Elle me prit par la main et me conduisant devant un coffre en chêne sculpté dont la face représentait des guerriers dans des niches et le couvercle des médaillons. « Voilà, dit-elle, un bahut qui date bien authentiquement du commencement du XIIIe siècle et qui est la pièce la plus curieuse de la maison, car les meubles de cette époque sont extrêmement rares. On les compte. Il y a celui du musée de Cluny et les armoires de Bagneux et de Noyon. » Celui-là vaut celui de Cluny pour son mérite artistique et sa conservation, et de plus, Il a pour moi et pour cette maison une valeur inappréciable, c'est d'être un travail toulousain. » Après le bahut, ce fut un retable, c'est-à-dire un lambris en bois sculpté, puis un dressoir à trois étages surmonté d'un couronnement sculpté à jour, puis une crédence, c'est-à-dire une armoire sur pied, dont les portes, ma tante dit les vantaux, sont ornées de ferrures et de verrous découpés à jour, représentant des branches et des feuillages. Puis des bancs surmontés de dés et divisés en stalles, enfin les tapisseries et les vitraux dont ma tante m'expliqua les sujets. Mais je ne te dis pas ces explications, car tu n'y comprendrais probablement rien, n'ayant pas les objets sous les yeux. Cependant, il faut que je te répète ce que ma tante a tenu à me faire comprendre. C'est qu'elle a voulu que sa maison fût une maison, celle de Guillaume de Puylaurens, et non un musée. De là, le caractère de cette maison, qui pourrait être habitée par Guillaume de Puylaurens, sans qu'il eût rien à changer à ses habitudes, retrouvant partout les meubles dont il se servait en 1250. Du rez-de-chaussée, ma tante me fit monter au premier étage par un bel escalier en pierre, tout garni sur ses murs d'armes, de bannières et de crosses. C'est à cet étage que se trouve ce que ma tante appelle la chambre de Guillaume de Puylaurens, meublée comme l'est la grande salle du rez-de-chaussée, mais avec un lit en plus et surtout avec une crédence. Tu sais que c'est une sorte d'armoire dans laquelle se trouve ce que ma tante estime par-dessus tout, les œuvres de Guillaume de Puylaurens et en manuscrit relié en velours décoloré, ayant pour titre « Chronica Magistri Guglielmi de Podio », c'est-à-dire, d'après la traduction de ma tante, « Chronique de Maître Guillaume de Puylaurens ». C'est ce « de Podio » qui fait que papa appelle si souvent ma tante de ce nom. Tu vois si ma matinée a été remplie. En sortant, la Gloriette se trouvait devant la porte et ma tante voulut bien me la donner à conduire pour descendre la côte.